janvier 83, Raymond Père Philippe.
La dernière fois, je vous rappelais que dans la lumière des mystères de Marie, nous devions mieux comprendre le lien qui doit exister dans notre vie entre le grand appel à la vie contemplative, la grande attraction du Père sur nous, l'attraction que Marie a vécue avec une telle intensité, et l'exigence de la charité fraternelle. Dans la vie de la Très Sainte Vierge, on le voit, j'allais dire, à trois moments différents. Et ces trois moments différents doivent nous aider à comprendre ces liens que Dieu veut établir entre l'exigence de l'adoration et de la contemplation et le mystère de la charité fraternelle. Et en Marie, ceci a pris une intensité et une force qui doit nous aider à comprendre comment Dieu veut, dans le renouveau de l'Église, reprendre profondément ces liens qui ont été au point de départ. Et ensuite, peut-être que la distinction est devenue quelquefois une séparation. Alors on a eu une mystique caritative, comme on dit, et puis une mystique contemplative. Est-ce qu'au fond, la Très Sainte Vierge n'est-elle pas aujourd'hui, dans son mystère de l'Immaculé, n'est-elle pas là pour nous rappeler que l'Esprit Saint, par elle, veut un lien beaucoup plus fort entre cette exigence de la contemplation et de la charité fraternelle? Vous voyez, la consécration de Marie et les fiançailles avec Joseph, c'est quand même très étonnant. C'est même bouleversant de voir ça. Le droit canon a bien séparé. C'est vrai, on voit très bien. La consécration de Marie, elle est totalement consacrée à Dieu. Et Dieu a voulu qu'à l'intérieur de son cœur totalement consacré, il y ait ce lien si fort avec Joseph. Ce lien si merveilleux et si pur. Je sais très bien, elle est immaculée. Et c'est grâce à son mystère de l'Immaculée Conception que l'Esprit Saint peut réaliser avec une telle intensité, la consécration totale de toute elle-même, son âme et son corps, à Dieu, au Père. Et que cet amour ne s'oppose pas à cet autre amour que l'Esprit Saint a voulu si intense avec Joseph. Pas une femme n'a aimé autant son époux que Marie. Et pas une créature ne s'est consacrée avec autant de force et autant de limpidité à Dieu, au Père, à la très sainte Trinité que Marie. On voit très bien comment dans l'Église il y a eu cette séparation, et on comprend très bien, étant donné les conséquences du péché. Mais vous savez bien que la grande idée de Marthe, que nous devons peut-être essayer de creuser, c'était, à travers le cœur de Marie, redécouvrir ce lien si fort entre la charité à l'égard de la très sainte Trinité à l'égard de Jésus et à l'égard de nos frères. Si facilement nous croyons que parce qu'on se donne totalement à Dieu, qu'on doit durcir sa sensibilité. Parce qu'on se donne totalement à Dieu, on doit par le fait même mener une vie où la charité fraternelle ne s'épanouit pas pleinement et totalement. On comprend, c'est plus simple d'une certaine manière de séparer. Mais n'oublions pas qu'on n'a pas le droit de séparer ce que Dieu a uni. Or, ce qui caractérise la nouvelle alliance, et ça c'est bien ce qui caractérise la nouvelle alliance, ce qui est le grand secret de la nouvelle alliance, c'est ce lien d'amour à l'égard de Dieu et à l'égard du prochain. C'est le même amour substantiel. Donc, il y a d'abord cela, et il faut y revenir souvent. Il faut y revenir souvent. Parce que ça permet de comprendre comment Marie est source de la vie religieuse, de la vie religieuse contemplative, de toute consécration à Dieu, sous toutes les modalités. Et que Marie est source de la famille chrétienne. C'est la même source. Dieu a voulu qu'il y ait la même source, unie dans le cœur de Marie. Alors, il ne faut pas que nous séparions ce que Dieu a voulu unir. Je sais très bien que c'est très difficile. Au niveau psychologique, c'est très net. Au niveau psychologique, il y a deux manières de vivre différentes. Il y a une exigence de la solitude, il faut la ressentir. Et puis il y a une exigence de la charité fraternelle, et il faut la ressentir. Et psychologiquement, j'allais presque dire, c'est contradictoire. C'est très vrai que plus on se donne au Seigneur et plus on est attiré par le Père, par la contemplation, plus on a besoin de solitude, plus on a besoin du désert. C'est très bien, j'aime beaucoup que certains d'entre vous sentent l'exigence du désert. Mais il ne faut surtout pas que ce désert soit, vous voyez bien, le ronronnement du petit chat auprès du feu pour se libérer des exigences de la vie communautaire, pour se libérer des exigences de la charité fraternelle. Alors ce serait très mauvais. Ce serait contraire. Ce serait contraire à l'Évangile. Et ce serait une manière très distinguée, voyez, de se mettre à l'écart. Très subtil de se mettre à l'écart. Et pourtant, c'est nécessaire qu'il y ait des jours de désert, c'est nécessaire qu'il y ait des jours où on puisse... Alors, c'est dans l'obéissance, vous voyez, qu'on est sûr de ne pas tomber dans cette petite tentation. Donc, la rencontre avec Joseph, deuxièmement, au moment d'annonciation. Alors là, c'est Dieu lui-même qui, par l'ange, montre l'exigence d'être totalement consacré à Dieu dans la maternité. Le mystère de la contemplation chrétienne qui prend ce mode particulier de la maternité divine. Le mystère de la contemplation chrétienne qui s'incarne dans le mystère de la maternité divine. La contemplation chrétienne qui assume toute la sensibilité. Être mère de Dieu, c'est vraiment toute la sensibilité qui doit être au service de ce don total à Dieu. Et l'ange, en même temps, annonce qu'Élisabeth attend un enfant. Elle en est à son sixième mois. Et ceci est donné à Marie pour que Marie comprenne l'initiative de la charité fraternelle. Vous voyez, les deux initiatives de Marie. Il y a eu une initiative par rapport à Joseph. Elle aurait pu refuser. Elle aurait pu dire à Joseph, non, c'est impossible, je suis totalement consacré à Dieu. Et sous le souffle de l'Esprit Saint, elle a compris que cette consécration à Dieu n'empêchait pas ce lien avec Joseph. Dieu n'est pas rival de l'amour et de l'amour qui peut exister entre deux cœurs humains. Mais il faut que cet amour entre deux cœurs humains, à cause des exigences mêmes de l'amour du Père, soit purifié. Et c'est vrai. Dieu a demandé à Joseph une fameuse pauvreté pour que ça puisse se réaliser dans cette unité dans le cœur de Marie. Une pauvreté unique. Et il a demandé la même pauvreté à Marie. Quand Dieu fait l'union entre l'exigence de la contemplation et de la charité fraternelle, le Père taille. Il taille l'exercice de la charité fraternelle. Et il veut que cet exercice prenne une modalité d'une pureté, d'une limpidité tout à fait particulière. Autrement, il y aura rivalité. Et la rivalité sera à cause de nous, parce qu'on n'aura pas compris. Parce qu'on n'aura pas compris ces exigences profondes de l'amour divin. Et c'est pour ça qu'il faut tout le temps revenir à Marie, qui est vraiment le modèle pour nous. Et je dirais spécialement pour nous, puisque la communauté Saint-Jean doit s'enraciner dans le cœur de Marie. Et plus elle avance, plus elle doit s'enraciner dans le cœur de Marie. Vous voyez donc qu'à l'Annonciation, l'ange montre à Marie comment la charité fraternelle pourra l'aider à garder le secret de son cœur. C'est curieux. La charité fraternelle qu'elle va réaliser auprès d'Élisabeth va l'écarter momentanément de Joseph pour que l'Esprit Saint puisse redemander à Joseph un nouvel amour. Vous voyez, ce jeu de la charité fraternelle, c'est comme ça. Dans la charité fraternelle, il y a comme ça des moments où Dieu veut que nous soyons particulièrement attentifs à tel ou tel, et des moments où il veut que nous soyons particulièrement attentifs à tel autre. Ce n'est pas une infidélité de la part de Marie. Hein. C'est une super fidélité. C'est-à-dire que c'est une fidélité tout à fait divine. C'est une fidélité merveilleuse où Marie fait une totale confiance à Joseph. Marie ne dit rien à Joseph. Comment voulez-vous ? Pour rien dire. Elle fait cette fidélité dans le silence. Elle a cette fidélité dans le silence, dans la confiance. Et l'exercice de la charité auprès de Joseph, auprès d'Élisabeth, va permettre à Joseph d'intensifier son amour. Pendant 3 mois, il fallait ces 3 mois de maturité pour la charité, pour l'amour de Joseph pour Marie. Il fallait ces 3 mois de plus pour que Joseph soit capable de comprendre exactement ce que l'Esprit Saint réclamait de lui. Et Joseph, sous le souffle de l'Esprit Saint, s'est totalement remis à Dieu. Il lui a tout remis. Il y a eu une très très grande pauvreté de la part de Saint Joseph. Le texte de l'Écriture dit ça d'une manière très brève et très cachée, mais on devine ce que ça a été dans le cœur de Joseph, comme drame. Ah, c'est pas simple, hein, c'est pas simple du tout d'unir l'amour à l'égard de Dieu et d'unir l'amour de la charité à l'égard du prochain. Serait beaucoup plus simple d'une certaine manière d'accepter une taille très radicale au point de départ et puis dire ça y est. Non, Dieu n'aime pas ça parce que Dieu ne veut pas séparer ce qu'il a uni. Et Dieu veut que nous gardions notre sensibilité, notre affectivité sensible, qui sera source de souffrance pour nous, c'est bien évident, mais qui sera source aussi de très grande joie. C'est dans la charité fraternelle, hein, qu'il y a les plus grandes souffrances et les plus grandes joies. les plus grandes souffrances, comprenez, les souffrances les plus vécues, pas les plus intenses. Les plus intenses sont dans notre amour à l'égard de Dieu. Et elles sont dans la foi. Mais les plus vécues, les plus consciemment vécues, parce que c'est à travers notre sensibilité, et c'est en même temps les plus grandes joies. C'est vrai que c'est là où, d'une certaine manière, le Père peut tailler de la manière la plus forte, dans notre générosité affective, dans la générosité de notre cœur sensible, de notre cœur aimant, de notre cœur humain, qui doit être en même temps le lieu de notre amour à l'égard du Père, de toutes les exigences de la contemplation. Quand on essaie de regarder ça dans le cœur de Marie, on doit le faire. Hein. Les enfants ont toutes les audaces. Alors ils en peuvent très bien demander au Saint-Esprit d'avoir un regard extrêmement pénétrant sur la manière dont Marie a aimé le Père et aimé Joseph. La manière dont Marie a vécu ces 3 mois auprès d'Élisabeth. Généreuse auprès d'Élisabeth, mais vous croyez qu'elle avait oublié Joseph ? Pas du tout. Joseph était plus présent au cœur de Marie qu'Élisabeth. Et Marie portait davantage Joseph dans son cœur qu'Élisabeth. Mais la générosité auprès d'Élisabeth, le service auprès d'Élisabeth, l'aidait à porter son amour pour Joseph. C'est extraordinaire ça. Et c'est souvent comme ça. Dieu nous donne des petits travaux, vous savez, pour porter certaines choses qui seraient très difficiles à porter autrement. Des petits travaux, et quelquefois des gros travaux. Il ne faut pas croire que Marie n'avait des petits travaux auprès d'Élisabeth. Dieu, quelquefois, nous donne des travaux lourds à porter pour que nous puissions cacher davantage certaines souffrances très intérieures. Qui est la taille du Père. Le Père aime les âmes généreuses parce qu'il peut tailler davantage. Il faut vous dire ça quand vous souffrez, hein, et que vous souffrez à travers un certain travail, que vous faites ce travail loyalement, mais que votre cœur saigne un peu. Comprenez que c'est la taille du Père pour que la charité fraternelle puisse fleurir davantage, pour que l'exigence de la contemplation aille plus loin. Puis alors le troisième moment, qui est encore plus visible et plus fort, c'est à la croix. Ça, nous y reviendrons, parce que la croix, c'est tellement quelque chose de tellement grand. C'est au moment où Marie est la plus unie à Jésus, dans la plus grande solitude et dans la plus grande exigence de contemplation pour glorifier le Père avec Jésus. C'est à ce moment-là où Jésus lui-même, c'est plus Marie qui prend l'initiative ici, c'est Jésus. Du reste, c'est Jésus qui donne un ordre. À l'Annonciation, Dieu n'a pas donné d'ordre, donc Marie a pris l'initiative. Tandis qu'à la croix, Marie a obéi. Voilà ton fils. Au moment même où Marie est liée à Jésus avec une intensité d'amour à travers le mystère de la compassion, une intensité d'amour inconnue jusque-là, il y a une nouvelle demeure. Il faudrait regarder toutes les demeures de la contemplation dans le cœur de Marie. On en aurait plus que 8, vous voyez. On aurait des demeures dans le cœur de Marie. Et c'est vrai, il y a une demeure de la contemplation de Marie qui est le mystère de la compassion. Et qui est une demeure très intérieure où Marie vit une unité avec le cœur de Jésus qui est unique. Et c'est à ce moment-là où Marie et Jésus sont un dans le regard du Père, que Jésus veut qu'elle regarde Jean. Dans la charité fraternelle, et que sa charité fraternelle à l'égard de Jean prenne cette modalité d'une maternité, c'est-à-dire d'un don total de tout elle-même, de ne rien garder pour elle, toute l'intensité d'amour qui l'unit à Jésus, doit être communiquée à Jean. Et cette charité fraternelle fera que Marie reste sur la terre. Si elle est donnée à Jean, c'est pour qu'elle soit auprès de lui. C'est pour que Jean la prenne dans son intimité. C'est pour que Jean la prenne chez lui. Et ceci, nous ne savons pas combien de temps. Aucun texte de l'Écriture ne nous le dit, et la tradition ne nous dit rien. C'est très beau, parce que ça montre justement le côté infini du don de la charité fraternelle. À l'égard de ses frères, on est donné pleinement et totalement, sans limite. Autant de temps que Dieu voudra. Et le mystère de l'Eucharistie sera donné à Marie par Jean, pour que Marie puisse vivre à travers l'Eucharistie ces deux mystères, l'unité de ces deux amours, l'amour à l'égard de Jésus, l'amour à l'égard de ces deux Jean et de tous ceux qui sont autour de Jean, et donc de nous. C'est bien évident que si Marie est donnée à Jean, elle nous est donnée. Et le mystère de l'Eucharistie est là pour lui faire comprendre cette dernière modalité du don, qui est se donner comme pain, à l'exemple de Jésus, c'est-à-dire comme nourriture, accepter de ne plus rien avoir pour elle. C'est le don du pain, cela. On accepte de ne plus rien avoir du tout pour nous, et on est entièrement donné à ceux qui ont faim et soif. On ne vit plus que pour Dieu, dans ce don total à tous ceux qui sont proches de nous. Alors là, nous comprenons bien, voyez, cette unité. Je crois qu'il faut y revenir souvent, cela, dans notre méditation et dans notre contemplation. Parce que c'est si important pour la communauté Saint-Jean. C'est si important de comprendre cette exigence absolue de la contemplation. Donc, une très grande fidélité à l'oraison. Une très grande fidélité à l'oraison. Ça, cette fidélité, il faut l'avoir. Hein. Et quand vous ne pouvez pas, parce que vous êtes trop fatigué, que vous avez demandé la permission de ne pas assister à l'oraison du matin, reprenez durant la journée. Il faut le faire. Et si vous pouvez compléter tous les jours, d'avoir un peu plus de temps de l'oraison, vous savez bien. Il y a eu un petit tournant, hein, qui est très bon dans la communauté Saint-Jean, vers une oraison plus intense et plus forte. Et nos sœurs seront là pour nous le rappeler, c'est-à-dire en priant le Père de nous attirer davantage pour que nous soyons plus fidèles à cette attraction du Père. Puisque c'est ça l'oraison. Et de subir cette attraction du Père et de nous laisser prendre par cette attraction du Père et de comprendre qu'en même temps, dans le même amour, dans le même mystère, il y a ce don à l'égard de nos frères. Alors je reviens sur ce don à l'égard de nos frères puisqu'il est si important. Vous voyez qu'à la visitation, et nous aurons l'occasion d'y revenir, cette charité fraternelle a été la source de la liturgie chrétienne, du premier moment de la liturgie chrétienne, le Magnificat. Et la liturgie chrétienne doit toujours revenir au Magnificat, parce que à la croix, c'est le grand silence. Quand Jésus est crucifié, et que Marie vit le mystère de la compassion, et que Jean vit le mystère de la compassion, vous comprenez qu'à ce moment-là, c'est le grand silence. Il y a bien un magnificat intérieur, un magnificat au plus intime du cœur de Marie. Et ce magnificat est tout intérieur. Et le mystère de l'Eucharistie va plonger Marie dans ce silence. Mais il y a le magnificat, qui nous montre comment la charité fraternelle doit être source de la prière liturgique. Et j'insiste beaucoup sur cela parce que je crois que c'est le propre de notre vie chrétienne, cela. On ne pourrait pas, vous voyez, spéculativement le dire. Mais on peut le dire grâce à Marie. Et il faut être très attentif à ça. Il y a des choses qu'en théologie scientifique, on ne pourrait pas dire. En théologie scientifique, où est-ce que vous bâtiriez, où est-ce que vous fonderiez la liturgie? Cherchez un peu, hein. C'est intéressant. Et quand vous regardez le mystère de Marie, vous dites, ah, tiens, c'est la charité fraternelle. Donc la liturgie chrétienne, à la différence de la liturgie tout court, a quelque chose de particulier. Elle est fondée sur la charité fraternelle. C'est tellement important. Je vous ai dit cet après-midi, hein, que la première division entre frères était née au niveau de la liturgie. Première division. Et les dernières divisions entre frères seront dans la liturgie. Sans être prophète, je peux le dire. Toujours. C'est curieux. C'est vrai, quand vous voyez la liturgie de Caïn et d'Abel, c'est pas la charité fraternelle qui les brûle dans cette liturgie. Non. Tandis que quand vous voyez la reprise dans le cœur de Marie, dans le Magnificat, c'est la charité fraternelle. C'est étonnant de voir ces deux extrêmes, hein, et de comprendre un peu ce que ça signifie pour nous. Parce que tout dans la nouvelle alliance demande une intériorité nouvelle. Demande que tout soit repris dans un amour plus fort. Et la plénitude de l'amour, c'est bien lorsque j'aime Dieu et le prochain. C'est là où la charité atteint sa plénitude. C'est donc là où elle a sa fécondité. Et la fécondité de la charité, c'est justement de remonter jusqu'à Dieu en le remerciant de l'action de grâce, en l'adorant, en le louant, en le suppliant. Vous avez là toutes les grandes modalités de la prière liturgique qui jaillissent de cette plénitude de l'amour. C'est bien enraciné dans la vertu de religion. C'est très vrai, c'est enraciné dans la vertu de religion. Mais une vertu de religion transformée par le don de piété et une vertu de religion qui est alors intimement liée à la charité fraternelle. Nous y reviendrons, hein. Mais c'est simplement pour que vous puissiez y réfléchir, parce que je crois que c'est important de comprendre que la liturgie chrétienne a quelque chose de particulier. Ce n'est pas n'importe quelle liturgie. Il y a la liturgie de l'Ancien Testament, qui a une espèce de splendeur extraordinaire, et la liturgie de l'Ancien Testament ne repose pas sur la charité fraternelle. La liturgie de l'Ancien Testament repose en premier lieu sur la vertu de religion et sur l'amour à l'égard de Dieu. C'est propre à la vie chrétienne et à l'Alliance Nouvelle. Alors ça, il faut essayer de le comprendre. Regardons donc la charité fraternelle. La charité fraternelle, l'agapé, il faut bien comprendre, hein, je vous l'ai déjà dit, et je crois que c'est très important pour nous de bien saisir cela, que Dieu a voulu qu'avant le mot agapé soit dans saint Jean et dans saint Paul, il soit dit par le Père. Moi, ça m'impressionne toujours beaucoup, j'avoue. Que c'est le Père qui s'adresse à son Fils et qui l'appelle Agapetos, le bien-aimé. Et donc, la première révélation de l'agapé, ça a été l'agapétos, le bien-aimé. C'est très important, vous voyez, pour nous de comprendre cela. Surtout quand vous voyez certaines personnes qui sont en opposition vis-à-vis de saint Thomas, ça fait partie de ces oppositions qui ont existé déjà d'un certain temps, disant que saint Thomas n'avait pas bien compris la charité, parce qu'il avait dit que c'était une amitié. Et que si vous regardez l'agapé, ça n'a rien à voir avec une amitié. Ils oublient qu'avant de dire l'agapé, il y avait l'agapétos. Et ces mêmes personnes sont d'accord de dire que c'est bien l'agapétos qui est avant et puis l'agapé qui vient après. C'est quand même très étonnant de voir ça, n'est-ce pas ? Puisque l'agapétos, c'est le bien-aimé. Mais le bien-aimé, c'est bien un amour d'amitié qui existe entre le Père et le Fils. Entre le Père et le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, c'est le cœur du bien-aimé. La personne du Christ. Et la personne du Christ, à travers son cœur, qui aime le Père et qui nous aime. Le bien-aimé, c'est le Père qui nous dit que son Fils est le bien-aimé et que nous devons l'écouter. Et donc nous devons nous aussi l'appeler le bien-aimé. Et dans notre contemplation, et dans notre oraison, nous appelons Jésus le bien-aimé. Et nous devons le dire avec le Père, parce que c'est le Père qui nous apprend à le dire. Et il n'y a que le Père qui peut nous permettre de le dire de cette manière, comme lui-même l'a dit. Et il faut supplier l'Esprit Saint de nous apprendre à dire à Jésus bien-aimé, et de le dire avec force et amour. Il est le bien-aimé, il est celui que nous devons écouter, que nous devons recevoir au plus intime de nous-mêmes et vivre comme celui qui est le bien-aimé. Et c'est à partir de Jésus que nous aimons ceux qui sont proches de nous comme nos bien-aimés. Alors évidemment, c'est plus difficile de le dire. Hein. On peut dire mon frère bien-aimé. Oui, c'est très vrai. Ne le dites pas trop souvent pour que ça garde sa saveur, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai qu'au plus intime de votre cœur, vous pouvez le dire. Et c'est très grand de pouvoir appeler nos frères nos bien-aimés. Parce qu'ils le sont, en toute vérité, et tant que vous ne pouvez pas le dire, ça prouve que votre charité fraternelle n'est pas tout à fait à l'unisson de l'Esprit Saint. Il y a encore le vieil homme qui domine. Alors le vieil homme qui domine, il dit quand même celui-là, mon bien-aimé, non, on verra, attendons un peu, n'est-ce pas, parce que vraiment, c'est... Les goûts de Dieu ne sont pas les nôtres. Hein. Et alors, oh, un tel, oui, celui-là, oui, tout à fait, je comprends très bien, mais l'autre, oh, c'est tous qui sont des bien-aimés. Dans l'horizon, nous devons de temps en temps, et même souvent, demander au Père de nous apprendre à le dire. C'est par là que nous renouvelons notre charité fraternelle, et que notre charité fraternelle devient réaliste, que notre charité fraternelle prend cette modalité concrète. La charité fraternelle, hein, c'est pas quelque chose, elle est catholique, c'est sûr, elle est catholique, elle est universelle, elle n'exclut personne, mais elle n'est pas universelle du tout comme l'universel, hein, c'est tout à fait autre chose. Elle est universelle dans ce fait qu'elle provient que l'amour de Dieu regarde tous les hommes. Et en théologie, l'universel s'applique différemment quand on parle de la cause universelle et de l'universel être de raison. Ce n'est pas du tout le même. Il faut faire attention. Et c'est très vrai que c'est tout à fait autre chose. Et de temps en temps, nous gardons un mode humain quand on dit qu'il faut aimer tout le monde. Ah oui, on les aime tous. Un de plus, très bien, ça s'ajoute. C'est très très bien, un de plus à servir. Il me disait un vieux serviteur quand on lui annonçait une naissance nouvelle. Il dit, ah oui, un de plus à servir. Un couvercle de plus à mettre. C'était sa charité fraternelle qui se traduisait comme ça. Mais là, au point de vue, vous voyez, au point de vue de la charité fraternelle, évidemment, ça ne doit pas être tout à fait comme ça. Il faut qu'on aime chacun d'une manière unique. Autrement, ça reste universel selon le mode humain. Dieu regarde chacun, Jésus à la croix, regarde chacun d'une manière unique. Et dans la charité fraternelle, nous devons nous habituer à nous choisir. Comme Jésus nous a choisis. Et Jésus nous demande d'arriver à ce choix. Comme le Père a choisi son Fils bien-aimé, et c'est lui qui est la mesure de ce choix, nous devons arriver à nous aimer les uns les autres de cet amour-là. C'est de la folie, hein? C'est évident, s'aimer de cette manière-là. C'est une folie divine, une douce folie, qui est une folie divine qui fait qu'on doit arriver vraiment à s'aimer de cette manière-là. On n'y arrive pas tout de suite, hein? Pendant qu'on est en oraison, ça va bien. Mais c'est pour ça qu'il faut l'oraison, vous comprenez? Parce que pendant qu'on est en oraison, c'est vrai, c'est très beau, ça. C'est des saintes distractions que le bon Dieu vous donne. Quand on est là derrière, alors on voit tous à genoux. Tant mieux ceux qui sont présents, vous voyez, ils sont devant. Alors on les prie, on les prend comme ça, ça. C'est merveilleux de voir ça. Que le Seigneur nous demande de nous porter les uns les autres dans l'oraison. Si vous n'avez que ces distractions-là, elles sont bonnes. Parce que c'est la distraction de Marie à la croix. Voilà ton fils. Il faut les prendre. Et quand on vit cela dans l'oraison, et qu'on le vit vraiment dans l'oraison, sous le souffle de l'Esprit Saint, qu'on s'est porté les uns les autres, qu'on s'est aimé dans la lumière du Christ, avec la tendresse du cœur du Christ, avec la tendresse du cœur de Marie, qu'on s'est aimé vraiment, qu'on s'est choisi, toutes les petites difficultés dégringolent. À ce moment-là, c'est complètement effacé, ça n'existe plus. Sous le souffle de l'amour de l'Esprit Saint, c'est complètement brûlé. Notre cœur fusionne avec le cœur de tel ou tel. On ne s'en aperçoit pas. Heureusement, ce serait très gênant. Quoi. Si au moment où ça fusionnait, vous voyez ça, immédiatement, il se retournerait. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Il y a un brasier d'amour qui est là et qui saisit. Non, heureusement qu'il s'en aperçoit pas. C'est dans la foi. Mais c'est réel. C'est réel. Tous sont offerts et le Seigneur réalise cela. Il réalise ce feu qui brûle, qui saisit chacun et qui fait cette fusion d'amour. Quand il y a cette fusion d'amour dans l'oraison, c'est beaucoup plus facile après, dans l'exercice concret de la charité fraternelle, de savoir se sourire, de se savoir s'effacer, de savoir que l'autre nous marche un peu sur les pieds. C'est beaucoup plus facile d'accepter ça. Vous comprenez bien que s'il n'y avait pas l'oraison, s'il n'y avait pas ce poids d'amour, ce serait beaucoup plus difficile. Parce qu'évidemment, on ne pédale pas tous du même pas. On a tous des très grandes diversités. Et heureusement qu'on n'est pas tous bâtis sous le même gabarit, qu'il y a une très grande diversité de choix de l'Esprit Saint. C'est très étonnant quand vous regardez la variété qu'il y a dans la communauté. Eh bien, il faut que, de fait, dans la raison, l'unité ait été suffisamment forte dans l'amour. L'amour fusionne les cœurs. Il est liquéfie, comme dit saint Thomas. Ça fait partie de l'amour. L'amour liquéfie, c'est-à-dire supprime toutes les petites barrières. Toutes les petites choses un peu dures, qui sont toujours un peu en nous, conséquences du péché. Tout ça est liquéfié. Alors, et c'est réel, c'est profond, c'est au niveau divin. Alors après, quand on doit exercer la charité fraternelle dans la vie commune, que cet exercice divin dans l'oraison, c'est l'exercice divin de la charité fraternelle dans la lumière du don de sagesse. On n'a pas beaucoup étudié ça au point de vue théologique. Et je crois que ce serait très intéressant. Saint Thomas nous dit que le don de sagesse permet un exercice divin de la charité. De la charité contemplative. Mais dans cet exercice divin de la charité contemplative, Dieu peut permettre que je regarde mes frères. Il l'a fait pour Marie à la croix. Le don de sagesse s'exerce dans le cœur de Marie à la croix. Le don de sagesse s'exerce dans le cœur de Marie à l'Annonciation. Et Marie comprend qu'elle doit aimer Jean dans la lumière du cœur de Jésus. Elle comprend qu'elle doit aimer Élisabeth dans la lumière d'amour du Père. Alors, l'exercice divin de la charité fraternelle se fait normalement par le don de piété. C'est le don de piété qui habituellement vous permet de vous supporter les uns les autres, de manger tous les jours les uns à côté des autres, sans faire des actes qui soient par trop violents pour manifester œil pour œil, dent pour dent. Bon, c'est le vieil homme qui est en nous et qui de temps en temps rugit. Une fois de plus, je me trouve à côté de lui. Mais, ça peut arriver, ça, que voulez-vous. C'est normal, c'est tout à fait normal. Alors le don de piété est là pour dire, eh bien oui, l'amour sera victorieux de ces petites oppositions, de ces petites antipathies. Ça, c'est l'exercice normal, mais qui est déjà divin, qui est merveilleux. L'Esprit-Saint se sert de tous les heurts, comme l'Esprit-Saint se sert de toutes les facilités. Parce qu'il n'y a pas que ces oppositions-là, il y a aussi les attractions. Heureusement, je vous ai déjà dit, la vie religieuse affine notre sensibilité. Ça, c'est bien évident. La vie régulière affine vos sensibilités. Vous n'allez plus au cinéma, des tas de choses que vous ne faites plus, n'est-ce pas? Vous ne fumez plus comme des sapeurs-pompiers. Bon, et alors ça affine votre sensibilité, petit à petit, c'est très vrai, votre sensibilité s'affine. Et alors votre sensibilité s'affinant, les sympathies et les antipathies sont beaucoup plus fortes. C'est normal. C'est pas inquiétant, c'est normal, tout simplement. Ça fait partie de la manière dont l'Esprit-Saint vous forme. Ce que l'Esprit-Saint demande, c'est une lucidité plus grande. Mais la lucidité plus grande ne fait rendre plus intense les sympathies et les antipathies. Parce qu'on est plus lucide, on voit mieux, on comprend mieux ce que c'est que la passion, ce que peut être une attraction. D'ordre sensible ou d'ordre spirituel. Parce que ce n'est pas uniquement d'ordre sensible, c'est d'ordre spirituel. Ce frère, il paraît tellement aimé de Dieu que c'est impossible qu'il ne m'attire pas. Et c'est vrai, ça. C'est quand même merveilleux de voir ça. Il est choisi par Dieu. Et ça se voit. Il a des jeunes figures angéliques. Ben, c'est extraordinaire, voyez-vous. Il y a des jeunes vivants, alors c'est quand même quelque chose qui nous attire, c'est un peu impossible autrement, quoi. Il y a quand même quelque chose qui est grand et qui est beau là-dedans. On serait les derniers à le voir. Ce serait triste. On est au contraire les premiers à le voir, à voir qu'il y a quand même quelque chose de l'Esprit Saint qui passe à travers nos yeux, à travers notre regard. Il y a quelque chose de Dieu. Il ne faut pas trop vite baptiser les saints, ou les canoniser, si vous aimez mieux, n'est-ce pas? Pas trop vite sur la terre, parce qu'on comprend qu'il faut garder tout ça dans le secret. Et si vous êtes témoin d'un tabord, Ça peut arriver, n'est-ce pas? Eh bien, gardez ça dans votre cœur. Venez le dire au Père Maître. N'est-ce pas? Venez le dire au Père Maître. J'étais témoin de quelque chose d'extraordinaire subitement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était, j'ai regardé l'heure. C'était exactement, mon père, au bout d'un quart d'heure d'oraison. Frère Intel, il est devenu complètement angélique. Et ce qui est très curieux, c'est que les autres ne l'ont pas vu, mais moi, je l'ai vu. Il est devenu complètement angélique, il a été complètement transfiguré, merveilleusement transfiguré. Alors le Père me dira, ne vous inquiétez pas, c'est une grâce que le bon Dieu vous a donnée, gardez le silence, n'en parlez pas, n'est-ce pas ? Quand il sera canonisé, vous pourrez, mais pas avant. Alors, c'est très bien ça, Dieu peut permettre des choses comme ça, c'est normal, hein ? C'est tout à fait normal. Vous savez, cette réflexion, je vous ai déjà dit, n'est-ce pas, que le Père de Haut disait à propos, c'était au Père Braun, donc il était exégète et qu'il était un tout petit peu, regardé un peu de façon drôle les apparitions de la Très Sainte Vierge. Et alors il se demandait si telle apparition était juste. Et le Père de Haut a gardé le silence et puis au bout d'un certain temps, il a dit, ce qui m'étonne, c'est que ça n'arrive pas plus souvent. Alors évidemment, ça c'était le boulet de canon en plein dans la cervelle de l'exégète. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Parce que lui, il s'attendait, ah oui, il faut beaucoup de prudence dans tout ça. Il s'attendait à ça. Il faut faire attention, il ne s'agit pas. Tandis que le Père de Haut disait, lui, en vieux sage, et vraiment vieux sage, complètement dans sa contemplation, il disait, oh, ce qui m'étonne, c'est que ça n'arrive pas plus souvent. Ça, c'est l'exercice du don de sagesse dans la charité fraternelle. La charité fraternelle peut s'exercer sous la mouvance du don de sagesse. Et à ce moment-là, Dieu nous donne des lumières merveilleuses sur ceux qu'il a mis proche de nous. Il ne faut pas les chercher, hein. Mais Dieu nous donne ces lumières et nous découvrons la manière dont Dieu les aime. Et Dieu veut qu'à ce moment-là, nous les aimions de cette même manière. C'est dans l'oraison, souvent. Ça peut être aussi en dehors de l'oraison, si l'oraison devient le climat normal de notre vie. Le don de sagesse va permettre d'avoir un regard beaucoup plus profond sur ceux qui sont proches de nous. Et donc de les choisir avec une intensité d'amour beaucoup plus grande. Et ceci, c'est bon, c'est nécessaire, parce que ça fait des liens beaucoup plus grands au point de vue de la charité fraternelle. Ce qui fait que vraiment en face de Dieu, on est liés les uns aux autres. Quand Dieu permet ça, ça fait des liens d'une force étonnante. Alors à ce moment-là, il n'y a plus de danger. Les liens sont divins dans le cœur du Christ. Ils doivent se renouveler, ils doivent être repris constamment. Ils ne sont pas exclusifs. Hein. Ce n'est pas à l'égard de tous. Quelquefois, ça peut être à l'égard de tous. Mais normalement, c'est plutôt singulier. C'est important cela, de comprendre que la charité fraternelle doit commencer dans la lumière de l'oraison et donc dans la lumière du don de sagesse. Il faut que nous nous aimions les uns les autres dans la lumière du don de sagesse. Ceci permet une intensité beaucoup plus grande et permet une purification beaucoup plus grande. Parce que c'est s'aimer dans la lumière directe du cœur de Jésus et du cœur de Marie. Et pour nous, spécialement à travers le cœur de Marie, c'est dans le don de sagesse que vous regardez le cœur douloureux et immaculé de Marie. C'est dans le don de sagesse, et bien c'est dans le don de sagesse que, à travers le cœur douloureux et immaculé de Marie, nous nous regardons. Et nous comprenons comment Marie aime de nous voir unis. Et nous comprenons aussi, dans le cœur de Marie, combien ça blesse le cœur de Marie de voir quelques oppositions entretenues, volontairement entretenues. Ça blesse le cœur de Marie. Marie veut que ses enfants soient un, comme Jésus et Marie sont un. Jésus le veut et la Très Sainte Vierge le désire. Ça fait partie du mystère de l'unité, vous voyez. Et le mystère de l'unité de l'Église, comprenez bien, il doit se réaliser en premier lieu dans la communauté dans laquelle on vit. C'est trop facile de vouloir l'unité de l'Église alors qu'il n'y a pas d'unité dans une communauté, vous voyez. C'est trop facile. C'est plus facile d'aimer quelqu'un qui est très loin, que je n'ai jamais vu, donc je n'ai vu que la photo. J'ai vu la photo de cette personne dont je l'aime beaucoup, parce qu'on me demande de prier pour elle, je l'aime beaucoup. Elle est très très loin, je ne l'ai jamais vue, je ne la verrai jamais de ma vie. J'ai vu que sa photo. C'est facile d'aimer comme ça. Enfin, c'est beaucoup plus difficile quand il n'y a pas de photo et qu'il y a la personne réelle à côté de nous, et qui vit à côté de nous. C'est beaucoup plus difficile, ça. C'est beaucoup plus difficile de l'aimer vraiment. Et de faire qu'à ce moment-là, toutes les petites oppositions, toutes les petites brisures, tout cela soit dépassé. Toutes les opinions différentes soient dépassées et que nous nous aimions vraiment dans le cœur de Marie. Il faut souvent penser à cela, que l'exercice divin de la charité, par le don de sagesse, nous permet de nous aimer dans une lumière nouvelle et fait que l'unité de la communauté est vraiment le fruit direct de la prière sacerdotale du Christ et le fruit direct de l'offrande de Marie dans sa compassion. Et cette unité doit passer dans notre cœur pour pouvoir se réaliser concrètement. C'est d'abord au niveau de l'oraison que doit se réaliser l'exercice divin de la charité fraternelle. Et croyez-le bien, que ce n'est jamais des distractions lorsque dans l'oraison le Saint-Esprit vous demande de porter tel ou tel de vos frères. Comprenez que c'est Marie qui vous demande ça et que vous devez le faire à ce moment-là. Alors on doit le faire dans la lumière du Christ, dans la lumière de Marie, mais on doit se porter. Et cela, vous le verrez ensuite dans votre vie apostolique. Si on est habitué de vivre de cette charité fraternelle, alors dans la vie apostolique, ce sera la même chose. C'est que Dieu nous demandera de porter d'abord dans une charité divine ceux que nous rencontrerons, ceux qui seront sur notre route, ceux qui nous demanderont de les aider. C'est une vie chrétienne que nous devons vivre. Et le corps mystique, c'est cette vie chrétienne qui fait qu'on est liés les uns aux autres à travers le cœur de Marie et dans le cœur de Marie. Cette charité fraternelle qui est un mystère d'amour et qui se réalise avec cet absolu de l'amour divin doit se concrétiser dans une vie commune. Je vous l'ai déjà dit, je le répète parce que je crois que c'est des choses très importantes à comprendre. Que l'absolu de la charité fraternelle se vit d'abord intérieurement. Parce que la vie commune n'est jamais un absolu. La vie commune n'est jamais un absolu. La vie commune, c'est quelque chose de relatif, vous comprenez très bien. Vivre à 15 dans une maison, à 10 dans une maison, vivre 80, 85 dans une maison, ce n'est pas le même exercice de la charité fraternelle. Tout simplement, les déplacements mettent un peu plus de temps. Alors, tant mieux si les déplacements mettent un peu plus de temps. Pendant toute la journée, je suis persuadé que vous faites au moins une demi-heure de déplacement. J'en suis sûr. Je ne vais pas compter. Si vous voulez compter, faites-le. Mais je suis persuadé que pendant la journée, vous avez au moins une demi-heure de déplacement. Alors, qu'est-ce que vous faites pendant cette demi-heure? Est-ce que vous priez pour vos frères? Est-ce que vous adorez? Ou est-ce que vous êtes dans la lune ou dans les étoiles? Si encore vous méditiez sur la métaphysique, ça irait encore, n'est-ce pas? Parce que ça peut être permis, le Saint-Esprit peut très bien nous permettre de prolonger le cours, n'est-ce pas? Il y a une double digestion, on a les estomacs de la vache. Ça se prolonge, n'est-ce pas? Et comme saint Thomas était le bœuf muet, donc il avait un estomac qui se prolongeait, n'est-ce pas? Qui prolongeait la digestion de ce qu'il recevait. Alors on doit quelquefois méditer comme ça. Ça peut être très bon de méditer comme ça, c'est pas mauvais du tout. Mais il faut surtout pas perdre de temps. Alors il s'agit pas d'être tendu, hein? Ah non, pas du tout. Il s'agit pas d'être tendu, il s'agit... Les déplacements doivent être détendus. Pour que les déplacements soient détendus, ne s'agit pas de courir d'un point à l'autre. Il s'agit tout simplement, quand on le peut, dès que la cloche sonne, immédiatement. C'est un service de charité fraternelle auquel on ne pense pas beaucoup. C'est un service de charité fraternelle parce que si on arrivait tous en même temps, vous voyez ce que ça ferait ? Un gros bouchon. Et alors, à ce moment-là, les poids lourds l'enfonceraient sur les poids légers. Ce serait une bousculade de premier rang digne d'être télévisée. Non, il ne faut surtout pas ça. Il faut avoir... Je vous ai déjà raconté cette petite histoire parce que c'est un petit chêne comme ça. C'est le père Gérard des Lauriers. Il faut prier pour lui. Il faut souvent prier pour lui. Ce vieux matheux, il faut prier pour lui. Père Gérard des Lauriers qui arrivait toujours à... Et puis il faut le voir, si vous ne le connaissez pas, alors ça n'a pas de charme. Mais quand on le connaît, petit trapu, alors il fonçait à toute vitesse. Il arrivait toujours à la dernière minute. Et alors cette fois, comme dans beaucoup de couvents, on teinte hein, les trois dernières minutes. Il arrivait toujours à la dernière minute. Prenant le bint comme ça, toute vitesse. Et puis, une véniflexion aussi rapide. Alors un beau jour, je lui ai dit, mais père, comment se fait-il ? Il m'a dit, j'ai calculé exactement, les mathématiques, ça sert à quelque chose. J'ai calculé exactement le temps qu'il fallait, la vitesse à l'extrémité, le temps qu'il fallait de ma cellule au cœur. Alors j'ai dit, mais père, si on faisait tous la même chose, ah, j'ai pas pensé. Ah, dis, mais comme on est quand même 100, ah, j'ai pas pensé. Il dit, mais c'est pour ça qu'on tâtonne, qu'on tâtonne le coup 5 minutes avant et qu'il y a le tintement 3 minutes. Parce que il y a le jeu, n'est-ce pas, des uns qui sont retenus un jour, des autres qui sont retenus un autre jour. Et ça, alors, ça se fait à peu près normalement. L'afflux se fait à peu près normalement pendant 5 minutes. C'est de la charité fraternelle, ça. Parce que c'est très dérangeant de voir un bolide arriver à la dernière minute. Surtout, vous voyez, surtout quand c'est toujours le même. Alors, à la fin, on se dit, mais quand même, on a presque envie de se mettre là, juste au bon moment, et puis avec un petit lacet, n'est-ce pas ? Vous voyez, ça vous donne des fantasmes effrayants, n'est-ce pas ? Qui sont terribles et qui sont contraires à la charité fraternelle. Il ne faut pas ça. Donc, dans la charité fraternelle, il faut, autant que possible, mais on vit une vie régulière. Et une vie régulière, elle se vit de cette manière-là. Il faut, autant que possible, quand on est libre, quand il y a des jours où on ne l'est pas, c'est bien évident. Mais quand on est libre, mais on part, mais on marche un peu plus lentement, pas plus mal après tout. On pourra méditer davantage, on pourra prier, on pourra réciter une dizaine de chapelets. Ce sera bien, et puis c'est bon d'arriver 3 minutes au cœur avant. C'est bon de prier quelques minutes. C'est l'exercice de la charité fraternelle, puisque c'est dans la vie commune. Vous voyez ? Alors, la quantité qui normalement pèse devrait multiplier les actes de charité. De manière très élégante d'alléger une communauté lourde. C'est vrai que la quantité normalement alourdit, c'est impossible autrement, philosophiquement parlant. La quantité alourdit, c'est sûr. La charité fraternelle nous permet de l'alléger en comprenant toutes ces petites astuces. Toutes ces petites astuces de service. Parce qu'on est nombreux, il y a possibilité de rendre beaucoup plus de services. Parce qu'on est nombreux. Et des services plus anonymes. Vous voyez, quand on est trois, on voit toujours le même qui sert, ou qui est là, et qui est attentif, et les deux autres pédalent un peu moins vite, et donc il n'y en a qu'un seul qui pédale vraiment. Tandem à trois, hein, on voit très très bien. C'est forcé, il y en a celui qui est plus vigoureux et qu'on voit. Quand vous êtes à 3, c'est forcé, ça se voit. Quand vous êtes 100, le tandem à 100, vous voyez, ou quand vous êtes à 80, on ne voit plus. Alors il y a des possibilités merveilleuses de la charité fraternelle. en étant rendre lumineux et de temps en temps le demander au Saint-Esprit, cela, de temps en temps demander à la Vierge Marie de nous faire comprendre quels sont les petits services qu'on peut faire pour alléger, pour aider. Alors ça concrétise notre amour. Et c'est dans l'anonymat qu'on le fait, parce qu'on le fait avec la Très Sainte Vierge. Mourir sans gloire, c'est le testament de Marie. Mourir sans gloire, faire des petits sacrifices sans qu'on le sache. Ah, il ne s'agit pas de le cacher d'une manière telle que tout le monde le voit. Vous voyez, ça arrive de temps en temps. C'est la manière très élégante de se cacher. Vous voyez. Alors tout le monde le voit. On attend un tout petit peu pour qu'on voit bien que c'est nous qui étions là. Vous voyez. Non, il s'agit de le faire avec la discrétion de notre Sainte Vierge et l'amour de notre Sainte Vierge. Alors à ce moment-là, c'est merveilleux. Il faudra, on reviendra là-dessus. L'exercice de la charité fraternelle dans la vie commune et dans une vie commune qui est comme la nôtre, c'est-à-dire nombreuse. Ça prend des modalités différentes. Il faut un certain temps, on sent très bien, il faut un certain temps pour que, de fait, le poids soit enveloppé de la nuée, pour que chacun soit enveloppé de la nuée. Alors, à ce moment-là, il y a une possibilité de faire que le nombre soit occasion de plus de service, donc d'un don plus généreux. Et la charité fraternelle peut s'incarner plus profondément.